Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Vous avez bien raison, vous nous écoutez sur graphite.net pour ceux qui nous suivent sur internet et sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM en direct, dans leur voiture, chez vous peut-être. Bon appétit si vous êtes à table, vous êtes en train peut-être de préparer à manger, ou alors vous êtes peut-être en train de prendre votre petit déjeuner parce que cette émission est rediffusée le mardi matin à 10h également. L'actualité scientifique aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu consacrée aux petites brèves de Science et Avenir, qui est un journal de vulgarisation scientifique que je vous recommande, parce que voilà, on a des sujets intéressants dans cette revue qui apparaît tous les mois, et puis notamment donc des articles assez conséquents, puis des petites brèves sur différents sujets. Donc voilà, ça va être un petit peu ça, et puis évidemment d'autres articles scientifiques qu'on retrouve dans différents sites, bien sûr. L'éphéméride de ce 8 avril, la découverte de la supraconductivité par le physicien néerlandais Kamerlingh Onnes. La supraconductivité, on est en 1911, c'est une époque où on découvre plein de choses au niveau électrique et électromagnétique, et donc la supraconductivité, c'est en 1911. La première tentative de détection de signaux d'une intelligence extraterrestre, c'est en 1960 que ça se fait. C'est dans le cadre du projet OSMA. On essaye de tenter de détecter des signaux extraterrestres. Ça démarre en 1960, quand même, mine de rien. Je ne pensais pas que c'était si vieux. Et enfin, la maison de la radio, de Radio France, propose au public d'écouter un son 3D pour la première fois le 8 avril 2016. Naissance, le 8 avril 1911, de Melvin Calvin, biochimiste américain, lauréat du prix Nobel de chimie en 1961 pour ses travaux portant sur l'assimilation du dioxyde de carbone par les plantes. Décès de le 8 avril 1861 de Elisha Graves Otis, inventeur américain. Otis, oui, ça nous dit quelque chose. Ça nous parle des ascenseurs, bien sûr. Il est le fondateur d'Otis Elevator Company. Il se rend célèbre en 1853 en inventant ce qu'on appelle le parachute. C'est un système de frein de sécurité révolutionnaire qui empêche la chute des ascenseurs en cas de rupture du câble, et en démontrant de façon totalement spectaculaire pendant l'exposition universelle de 1853, parce qu'il est perché sur une plateforme de levage bien au-dessus de la foule du Crystal Palace de New York, et il stupéfie l'assistance en ordonnant dramatiquement de couper avec une hache la seule corde de suspension de la plateforme sur laquelle il se tient. La plateforme chute de quelques centimètres et elle s'arrête. Sain et sauf, messieurs, c'est ce qu'il proclame, et il démontre justement l'efficacité de son invention. Et il s'appelait donc Otis. Il est décédé le 8 avril 1861. C'est-à-dire que ce système de frein, créé dans les années 1850, je ne pensais pas que c'était si vieux. Vous voyez, c'est des choses. Ce genre d'informations, cette petite rubrique d'éphémérides, permet de remettre un petit peu dans le contexte historique et de se dire, oui, effectivement, c'est beaucoup plus ancien ou beaucoup plus récent qu'on ne le pensait. Et là, on est dans les années 1850. Biotine, ça sera aussi une émission musicale, comme tous les samedis. On écoutera un petit peu quelques titres, bien sûr, tout au long de cette émission. Alors, au niveau donc de Science et Avenir, il y a pas mal de petites brèves qui sont assez intéressantes. Par exemple, qui montrent que les seniors qui portent des prothèses auditives, eh bien, ces seniors ont un risque moins élevé de développer des démences par rapport à ceux qui n'ont pas d'appareil et qui souffrent de problèmes d'audition. C'est ce que montre le suivi de plus de 2400 personnes âgées aux États-Unis. C'est une étude menée par l'université Johns Hopkins aux États-Unis, et ça confirme l'étroite corrélation entre la perte d'audition non traitée et les démences séniles. Et donc ces appareils auditifs protègent des démences, et ça a donc été confirmé par cette étude américaine. Il y a une molécule issue d'un champignon qu'on appelle le clitocyb inversé, qui aurait un potentiel thérapeutique contre une forme rare de mucoviscidose, selon des chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille. On en avait parlé dans cette émission, je pense que c'était en février, et donc l'Institut Pasteur de Lille communique sur cette piste intéressante, sur ce potentiel thérapeutique contre une forme rare de mucoviscidose. Les autorités sanitaires françaises recommandent que la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour les enfants de 2 à 17 ans. C'est tout nouveau. Et donc, du coup, il y aurait un vaccin supplémentaire suggéré. C'est pas encore obligatoire, mais concernant la grippe saisonnière. Enfin, il y a une étude française qui confirme la capacité des fourmis à détecter l'odeur des tumeurs dans l'urine des malades après un rapide entraînement, ce qui permettrait justement d'avoir une façon originale de pouvoir détecter des cancers à partir des odeurs émises par les urines et qui seraient détectées par les fourmis. C'est assez fascinant, en fait. J'aurais déjà savoir d'où est venue l'idée, on ne sait pas, mais c'est assez étonnant, assez fascinant. C'est ça, Biotine. C'est l'actualité scientifique sous toutes ses formes, de formes les plus sérieuses aux plus anecdotiques. Et c'est aussi un peu de musique. On écoute Pip Blom sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Voilà, c'était Pli Blom sur l'antenne de Graphite avec Holiday. Allez, on continue à feuilleter un petit peu les pages de Science et Avenir avec les bienfaits des barrages des castors. Les castors qui sont une aubaine pour la qualité de l'eau des rivières, selon les hydrologues, parce que leur barrage en bois élève les niveaux d'eau en amont. Ça détourne les flux vers les sols environnants et les cours d'eau secondaires. Or, ces zones riveraines agissent comme des filtres pour essayer d'éliminer l'excès de nutriments et de contaminants avant que l'eau ne réintègre le canal principal en aval. C'est ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas c'est ce que sont rendus compte des chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis. Et ça permet donc en clair de filtrer l'eau des rivières grâce à ces constructions des barrages de castors. C'est la rubrique Nature de Sciences et Avenir qui évoque cela, comme également le scanner qui a été effectué sur des serpents femelles. Et les scanners ont révélé la présence dans leur queue d'une double petite langue de chair en forme de cœur, non loin des glandes odorantes qui servent à attirer les partenaires. En fait, depuis des décennies, on a étudié les organes sexuels des serpents mâles, mais alors l'organe du plaisir femelle avait été négligé, même chez les serpents, vous voyez, finalement, c'est un peu partout. On appelle ça des hémiclitoris, qui ont été identifiés chez des spécimens des quatre principales lignées de serpents, et donc c'est l'université d'Adélaïde en Australie qui s'est penchée sur la question et qui confirme donc, grâce à ces scanners, que les serpents femelles ont bien un clitoris également, et qui est présente, située au niveau de la queue des serpents femelles. Le réservoir de magma sous la caldeira du Yellowstone aux États-Unis, qui est l'un des plus grands volcans du monde, eh bien le réservoir contient presque deux fois plus de roches fondues qu'on ne le pensait. C'est une nouvelle étude de l'université de l'Illinois aux États-Unis qui l'affirme. Alors, on en est à peu près 20% du réservoir total. C'est encore loin des 50% nécessaires à une éruption majeure. Il n'empêche que on s'est rendu compte qu'il y avait deux fois plus de lave dans ce volcan Yellowstone qu'on le pensait. Et donc, cette étude a permis de pouvoir confirmer, au moins de surveiller, on va dire, ce qui se passe dans ce volcan Yellowstone. En météorologie, on le sait, l'année 2022 se classe bien au premier rang des années les plus chaudes en France depuis le début des relevés en 1900, loin devant le précédent record qui avait été atteint en 2020. En 2020, la température moyenne annuelle en France était de 14,07 degrés Celsius, et en 2022 on est monté à 14,5 degrés Celsius. Météo France a confirmé qu'il s'agissait bien d'un symptôme du réchauffement climatique. On avait-on besoin encore de l'expliquer? Et un autre sujet, en tout cas toujours dans la rubrique Nature de Sciences et Avenir, on a analysé les teneurs en méthane, et on sait que les teneurs en méthane dans l'atmosphère augmentent depuis la fin des années 2000. Les satellites ont enregistré un bond en 2020. Et la question, c'est comment expliquer cette explosion ce gaz à effet de serre, qui est le deuxième gaz le plus puissant après le dioxyde de carbone. On parle du méthane. Eh bien, c'est la faute du climat. Et 2020, c'est la faute aussi au Covid-19. C'est une équipe internationale franco-chinoise qui a résolu l'énigme dans la revue Nature. Le quasi-arrêt de l'économie mondiale a réduit les émissions d'oxyde d'azote de 6%. Or, ce gaz irritant, c'est aussi un précurseur des éléments extrêmement réactifs qui sont les radicaux hydroxyles et qui détruisent 85% du méthane émis chaque année. Et donc, comme on a moins émis d'oxyde d'azote en raison de la baisse, bien sûr, des confinements, donc de la baisse de la productivité et de l'économie mondiale, et bien du coup, le méthane, lui, a plus prospéré. D'ailleurs, c'est une année chaude et humide en 2020, et cette année a connu une intense activité de décomposition par les bactéries dans les zones humides, les lacs, les rivières, ce qui a contribué au phénomène de production de méthane également. Et les chercheurs ont conclu que plus que jamais, la lutte contre les fuites de méthane devient urgent, et c'est assez intéressant de voir que finalement, on est quelque part dans un équilibre aussi, c'est-à-dire qu'il y a un gaz qui va pouvoir détruire un autre et ainsi de suite. Enfin, comme on est dans des réactions chimiques, c'est totalement logique. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait des émissions de méthane qui avaient bondi en 2020 et on voulait en avoir la cause. Et donc, c'est bien cette équipe franco-chinoise qui en apporte la conclusion. En tout cas, dans la revue Nature, on en sait un petit peu plus. Toujours dans cette rubrique nature et plutôt animaux, on est au niveau de l'entomologie. Donc, on va parler des insectes et principalement des fourmis. fourmis. Il y a une étude de l'université d'Arizona aux États-Unis qui a traqué des fourmis sur des trajectoires de près de 5 km et les scientifiques montrent que leurs déplacements, qui sont en apparence un petit peu erratiques, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elles ne savent pas où elles vont, eh bien en fait, ça ne doit rien au hasard. Elles progressent selon des méandres très réguliers pour explorer le maximum de territoire. Donc en fait, comme on a l'impression qu'elles sont un peu partout, elles ne savent pas où elles vont, en fait c'est totalement réfléchi, c'est-à-dire qu'elles explorent le maximum d'endroits quelque part. Et 78% d'entre elles tournent à droite ou à gauche tous les 10 mm. Donc tous les centimètres, elles vont changer de direction. C'est assez impressionnant. C'est trois fois la longueur de leur corps. Et ça leur permet donc d'explorer le maximum de territoire. Elles ne se déplacent pas au hasard. Et donc c'est cette équipe de l'Université d'Arizona qui nous apporte un petit peu la raison de cela. Au Brésil, les dauphins se synchronisent avec les pêcheurs, principalement à Laguna, c'est au niveau de la côte sud du Brésil. La pêche traditionnelle consiste à observer le comportement des dauphins pour déterminer quand lancer le filet. C'est une étude réalisée à l'aide de drones et de caméras sous-marines qui montre que les dauphins aussi se synchronisent avec les pêcheurs locaux pour maximiser leur prise de poissons. C'est assez... une espèce de collaboration entre le dauphin et l'homme pour maximiser les prises. Et c'est l'Université fédérale de Santa Catarina au Brésil qui nous parle de cela. Et enfin, on va terminer avec cette étude de l'Université de Paris-Saclay qui explique qu'à leur manière, les éléphants de forêt d'Afrique s'avèrent des ingénieurs des écosystèmes essentiels au bon stockage du carbone par les forêts qu'ils arpentent. Parce que leur pas lourd déplace plus de graines d'espèces qu'aucun autre animal. Et en se nourrissant de feuilles d'arbres à faible densité de carbone, ils favorisent les essences qui en stockent le plus. Ils sont intelligents, ces éléphants, parce qu'ils...
La forêt sombre, il ne sert à rien d'attendre.
Obscure Cité, c'était Alligator sur l'antenne de Graphite. On continue à feuilleter Science et Avenir avec ses petites brèves, et notamment cette distance record sans escale pour un oiseau migrateur. Une barge rousse qui a volé 11 jours, 11 nuits et une heure sans mettre une patte à terre, c'est-à-dire 265 heures de vol sans escale. C'est un record. Et ce volatile, âgé de quelques mois seulement, a parcouru d'une seule traite 13 560 km qui sépare son point de départ en Alaska de l'île de Tasmanie au sud de l'Australie, où elle passe l'hiver. La barge rousse, c'est quand même assez fascinant. 11 jours, 11 nuits sans s'arrêter, en fait. Pour la première fois, il y a une étude qui a modélisé les émissions de gaz à effet de serre dues à la recharge électrique des véhicules autonomes, qui sont plus gourmands en énergie du fait de leur instrument embarqué. Et avec un niveau d'autonomie maximal, il y a 1 milliard de ces voitures qui circulent une heure par jour et qui émettraient autant que tous les data centers du monde dans le même laps de temps. L'empreinte carbone des voitures autonomes est totalement insoupçonnée. Et ça, genre, c'est une petite brève. Qui nous vient d'une étude du MIT aux États-Unis, à l'Institut de technologie du Massachusetts. Donc ça paraît anecdotique. C'est un sujet assez intéressant parce que, en fait, qui dit voiture électrique dit consommation d'électricité, donc dit production d'électricité. Enfin, il y a plein de choses derrière qui sont que l'on ne soupçonne pas. Et là, en fait, on se rend compte que ça émet des gaz à effet de serre à cause de cette recharge électrique de ces voitures autonomes qui est totalement faramineux. C'est assez intéressant, enfin, c'est assez bluffant, et je pense que ça sera des sujets que nous réévoquerons de façon un peu plus approfondie dans cette émission, dans des prochaines émissions, bien sûr. Enfin, toujours au niveau de la rubrique nature et animaux, et on s'est rendu compte, l'université de Greifswald en Allemagne a constaté qu'après amputation, les araignées de mer juvéniles de l'Atlantique Nord sont capables de régénérer leurs organes excréteurs et sexuels. Et c'est ce qui a été montré par des expériences. Alors, on ne sait pas par quel mécanisme, mais elles arrivent à faire repousser leurs organes. C'est quand même assez fascinant. Alors, attention, les araignées de mer, c'est pas celles que l'on connaît, nous, que l'on mange. C'est une autre espèce d'araignée de mer. Il n'empêche que elles sont capables de régénérer certains organes. Si on arrive à comprendre le mécanisme, ça peut être aussi très intéressant. Et du coup, voilà, ça donne c'est une interrogation, c'est une constatation. Il va falloir maintenant essayer de creuser un petit peu plus. Au niveau technologie, il y a plusieurs choses qui ont été démontrées, notamment cette expérience conduite au sommet du Mont Santis en Suisse, qui a montré que le faisceau d'un laser peut être utilisé comme paratonnerre. Sur son passage, le rayon vert de quelques centimètres de large crée un plasma, donc de l'air qui est chauffé, qui est chargé en ions et en électrons, qui devient donc conducteur. Et son intensité maximale, qui est réglée à l'aide d'un télescope à 150 mètres de hauteur, ça a permis d'intercepter et de guider la foudre au-dessus de la tour de télécommunication du site. Donc un faisceau laser a pu dévier la foudre, et ça, c'est assez intéressant. Au niveau des États-Unis, l'université de Pittsburgh a permis de voir à travers les murs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a utilisé une nouvelle méthode de détection qui pourrait devenir une alternative bon marché aux caméras et aux radars. En fait, cette méthode consiste à analyser les perturbations de la propagation du signal Wi-Fi dans une pièce entre 3 émetteurs et 3 récepteurs. Et donc, on a fait une reconstitution d'une image en 3D et on s'est rendu compte que l'opération permettait d'obtenir une cartographie 3D fidèle, c'est-à-dire qu'on a pu, il y a une image qui apparaît dans Science et Avenir et qui montre un petit peu la forme et la position des corps humains qui étaient présents dans la pièce, et donc on a pu révéler par les ondes, c'est-à-dire qu'on a pu voir la perturbation des ondes Wi-Fi qui ont été perturbées par la présence des corps humains, et donc on a capté cette perturbation et quelque part on a pu identifier les formes qui ont été la cause de ces perturbations, la forme des corps humains, et donc on a pu avoir une espèce d'imagerie de ces corps humains à travers un mur. C'est assez intéressant et assez fascinant, bien sûr, et on devine les applications qu'il peut y en avoir, évidemment. Et on termine avec 2 petites informations. La première, vous avez peut-être tous en image, enfin en tête, cette image qu'on a vue et qui moi totalement fasciné, c'est le film Terminator 2 qui date de 1991 déjà, c'est quand même assez vieux, hein, 1991, et on se rappelle tous de cette image de ce robot, le T-1000, qui traverse les barreaux d'une porte grâce à sa constitution en acier liquide. C'est bien sûr une scène de cinéma d'anthologie. Eh bien, c'est une scène que vient de recréer une équipe internationale d'Américains et de Chinois qui a été révélée dans la revue Mater. Leur passe-muraille, c'est une figurine de gallium dans laquelle ont été incorporées des particules magnétiques. Et l'intérêt de ce métal, le gallium, c'est sa très basse température de fusion, qui est à peu près 30 degrés. C'est-à-dire que quand on est dans une pièce à 30 degrés, ce métal est fondu. Et donc on va l'allier à des particules magnétiques et le métal il devient réactif au champ magnétique, et ce de deux façons. D'abord, selon le procédé d'induction, eh bien le matériel peut chauffer à distance et se ramollir, et ensuite il devient capable de réagir à un champ magnétique pour se déplacer. Et en fait, l'équipe a ainsi pu utiliser cette espèce de robot pour extraire un modèle un objet étranger, ou pour délivrer des médicaments, notamment dans un estomac. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont réussi quelque part à avoir un robot en métal liquide qui peut se déplacer, se solidifier, se liquéfier. C'est un petit robot, c'est un mini-robot, évidemment, mais ça peut avoir des conséquences assez intéressantes. Le métal peut même assembler ou réparer des circuits électriques, parce qu'il est aussi conducteur de courant. Les applications sont totalement fascinantes et on a des images dans Science et Avenir qui montrent cette espèce de petit robot qui traverse justement une espèce de barrière faite de métal, un peu justement comme ce fameux robot T-1000 dans Terminator 2. Et du coup, ça peut avoir des applications assez intéressantes avec uniquement du gallium, donc qui est un métal assez particulier, et des aimants. C'est des applications qui peuvent permettre justement de pouvoir... on a quelque part quelque chose qui se déplace, qui se solidifie, qui se liquéfie à distance, et j'allais dire à volonté également. On devine un petit peu les applications qu'il peut y avoir. Voilà, il y a plein de petites brèves à voir sur Science et Avenir. Je vous conseille de pouvoir feuilleter Science et Avenir. Là, c'était une petite brève de la revue de mars. On verra celle d'avril lors de l'émission peut-être de la semaine prochaine ou de fin avril, bien sûr. Mais si vous avez la possibilité de pouvoir feuilleter Science et Avenir, je vous conseille. C'est très intéressant. Allez, Band of Horses sur l'antenne de Graphite. Et puis on va continuer ensemble à feuilleter l'actualité scientifique sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. I'm Crutch, c'était Band of Horses sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Un sujet assez important concernant la première cause d'empoisonnement mortel chez les enfants. Et on se rend compte que ce sont les opioïdes. Les substances dangereuses sont nombreuses dans nos foyers. Les médicaments, les produits ménagers, les lessives, les drogues, les alcools. Et les enfants de moins de 5 ans s'avèrent les premières victimes des mono-intoxications qui se produisent le plus souvent au sein des maisons, par manque de surveillance en général de la part d'un adulte. Une étude réalisée aux États-Unis conclut que les médicaments opioïdes figurent en haut du classement des substances responsables d'empoisonnement mortel chez les jeunes enfants. L'étude s'étend de 2005 à 2018, donc on est sur une période quand même assez importante. Une période durant laquelle plus de 700 intoxications mortelles d'enfants de moins de 5 ans ont été constatées à travers les États-Unis. L'âge moyen de ces très jeunes patients était de 1 an et 3 mois. Ces intoxications étaient pour plus de la moitié accidentelles, mais certaines ont été rapportées comme intentionnelles, environ 17%, et probablement reliées à des cas de maltraitance, c'est quand même assez inquiétant. Environ 30% des enfants pris en charge avaient déjà subi des maltraitances. L'étude met le doigt sur une tendance inquiétante. En 2005, les opioïdes représentaient environ un quart des intoxications mortelles référencées. Mais en 2018, donc à la fin de l'étude, on en est à plus de la moitié des cas. Et derrière ces médicaments psychotropes, on trouve des médicaments sans ordonnance pour soulager les douleurs ou les infections hivernales, puis les drogues. Et depuis les années 2010, les États-Unis font face à une augmentation inquiétante des cas d'overdose par opioïdes. Et au dernier comptage qui a été fait l'année dernière, les opioïdes sont impliqués dans le décès de plus de 100 000 Américains sur un an. Cette crise des opioïdes dépasse bien sûr les frontières des États-Unis et se répercute aussi sur les très jeunes enfants. Mais voilà, on apprend donc que les opioïdes sont la première cause d'empoisonnement mortel chez les enfants. Et c'est une étude qui laisse à réfléchir bien sûr et qui est assez inquiétante. Autre chose toujours au niveau médical et prévention, concernant cette fois l'origine de la maladie de Parkinson. On sait que c'est encore imprécis. Si certains cas peuvent être expliqués par des mutations génétiques ou des traumatismes crâniens, eh bien ces facteurs ne suffisent pas à prouver les taux de croissance de la maladie. Des causes plus invisibles doivent y contribuer, comme l'utilisation massive de produits chimiques un peu partout dans le monde. Et parmi ces produits chimiques, il y a le trichloréthylène, qui est un produit très répandu depuis environ 100 ans, qui a déjà contaminé d'innombrables sites et qui présente des risques pour la santé des personnes qui y sont exposées dans le cadre de leur travail ou de leur environnement. L'agence américaine qui établit les normes environnementales pour les États-Unis précise que le trichloréthylène présente un risque déraisonnable pour la santé humaine. Alors, il s'agit d'un solvant simple à 6 atomes qui est volatile, qui persiste dans l'environnement. Comme il présente des propriétés uniques, il a de nombreuses applications industrielles, commerciales, militaires et médicales, notamment le nettoyage de l'électronique, le dégraissage des pièces de moteur, le nettoyage des vêtements à sec. L'exposition ne se limite pas aux personnes qui travaillent avec le produit chimique. C'est ce qu'écrivent les auteurs d'une étude qui a été parue dans le journal The Parkinson Disease. Ce trichloréthylène pollue l'air extérieur, souille les eaux souterraines, contamine l'air intérieur et donc la molécule, comme le radon, s'évapore du sol sous-jacent et des eaux souterraines. Ça pénètre dans les habitations, dans les lieux de travail, dans les écoles, souvent sans être détecté. Alors depuis, le produit chimique a été interdit dans l'Union européenne et dans 2 États américains, mais il est toutefois toujours autorisé pour le dégraissage à la vapeur et le nettoyage à sec ponctuel aux États-Unis et pour des utilisations industrielles autorisées dans l'Union européenne. Et donc, du coup, le lien entre l'exposition au trichloréthylène et la maladie de Parkinson, ça a été établi depuis une cinquantaine d'années. Il y a des recherches qui avaient été menées sur des animaux qui avaient montré que le produit pénètre facilement dans le cerveau et les tissus corporels et qu'il provoque une perte sélective des cellules nerveuses productrices de dopamine. C'est une caractéristique, en fait, de la maladie de Parkinson chez l'homme. Et donc, les chercheurs internationaux de cette nouvelle étude partent de l'hypothèse que le trichloréthylène contribue à l'augmentation mondiale de Parkinson et qu'il en serait une cause à la fois invisible et aussi évitable. Et il dresse le profil de 7 personnes qui ont développé la maladie de Parkinson après y avoir été probablement exposées dans le cadre du travail ou dans l'environnement. Des décennies se sont écoulées entre cette exposition et l'apparition des symptômes de la maladie, ce qui rend bien sûr difficile l'établissement des preuves, bien évidemment. Alors, les auteurs de cette étude proposent une série d'actions pour contrer les méfaits du trichloréthylène en santé publique. Ils notent que les sites contaminés qui sont des milliers aux États-Unis, eh bien, ils peuvent être rendus, ces sites, plus sains et que l'exposition de l'air intérieur peut être atténuée par des systèmes d'assainissement des vapeurs. Il y a d'autres recherches qui sont nécessaires, bien sûr, pour mieux comprendre comment ce produit chimique contribue à la maladie de Parkinson et à d'autres maladies également, mais en tout cas, ce produit chimique très répandu semble être associé à la maladie de Parkinson et donc, du coup, on se dit qu'il faudrait peut-être essayer de trouver des solutions alternatives, car c'est assez périlleux, c'est assez catastrophique. Voilà, ben, c'est pas toujours gai, hein, bien sûr, l'actualité, mais voilà, on est aussi obligé, dans le cadre de cette émission, d'aborder tous les sujets les plus futiles aux plus dramatiques, bien sûr. Heureusement qu'on a un peu de musique, parce que ça décompresse un peu, ça fait du bien.
Fire inside that burns so bright begins to grow faded. It can be hard to see the ground on which you stand. Though you may not be afraid of walking in the darkness, you will feel like a stranger in this land. You can try to carve a faith out of your own, but a broken spirit may dry out the bone. And the edges of the night may cause you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but I'll always be with you. Yeah, I'll always be with you. When the hope that you hold tightly to has all but vanished, there are no words of comfort to be found. You will know what it means to be lost and without love. May you fight to kill that deafening sound. But our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but I'll always be with you. I'll always be with you. Try to carve a faith out of your own, but a broken spirit may dry out the bone. And the edges of the night may cause you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but our holy dreams of yesterday are gone. They still haunt us like the ghosts of Babylon. And the breaking of the day might bring you sorrow. You know I may not be around this time tomorrow, but I'll always.
This Time Tomorrow, c'était Brandy Carlile sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Beauty In tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi matin à 10h pour la rediffusion afin de vous tenir informé de l'actualité scientifique. Alors, pendant qu'on écoutait Brandy Carlile, j'étais en train de chercher quand même des infos un petit peu plus réjouissantes, ou en tout cas moins lourdes, et notamment ces petites bonnes nouvelles, entre guillemets, ou en tout cas ces découvertes assez intéressantes. Par exemple, l'échographie cardiaque, qui est un examen médical qui n'est pas invasif, qui n'est pas douloureux. L'objectif, c'est de produire des images du cœur et d'évaluer la tonicité du muscle cardiaque. Alors cela peut être bien sûr nécessaire si le patient ressent des symptômes comme des essoufflements ou des douleurs thoraciques, en cas d'hypertension ou d'hypertension artérielle pulmonaire, en cas de suspicion d'insuffisance cardiaque. Bref, au début de l'examen, il y a un gel tiède qui est appliqué sur la peau au niveau du cœur. Le patient est allongé sur le dos. Le médecin utilise ensuite la sonde de l'échographe et des images du cœur apparaissent sur le moniteur. L'examen dure à peu près une heure. Il y a une équipe de chercheurs située en Californie qui a réussi l'exploit de miniaturiser un échographe cardiaque. Il n'est pas plus grand qu'un timbre et il est capable de fournir en temps réel des données sur la structure et la fonction cardiaque du patient. Ce sont des travaux révolutionnaires qui ont été publiés dans la revue Nature. Cette espèce de patch adhésif est composée de minuscules capteurs piézoélectriques qui vont transmettre des ultrasons de la peau vers l'intérieur du sang. Un peu comme le ferait la sonde d'un échographe. Et lorsque les ondes vont rencontrer des éléments, comme par exemple les parois des cavités du cœur, eh bien elles vont rebondir et elles vont renvoyer les informations au niveau du patch adhésif. Et donc en une fraction de seconde, le patch reçoit comme des échos par rapport aux ondes qu'il a envoyées. Et ces données, elles sont ensuite traduites en images par la machine. C'est comme un échographe, en fait. Et donc, il y a eu des tests qui ont été réalisés. Et lors de ces premiers tests, le patch est encore relié avec des câbles à une machine et à un ordinateur. Mais à terme, l'objectif, c'est de développer l'outil pour qu'il soit en capacité de fonctionner sans fil. Ce patch ressemblerait alors à un simple pansement dissimulé sous les vêtements, extrêmement discret, totalement indolore, et on peut même imaginer que le patient pourrait le porter durant plusieurs heures, ce qui permettrait donc de suivre ses activités, poursuivre ses activités habituelles, et ça permettrait d'obtenir des informations beaucoup plus complètes que celles fournies par un échographe classique pour un meilleur suivi des patients cardiaques. Des tests ont été réalisés pour comparer ce patch à des échographes standards. Même alors, s'il reste encore un certain nombre d'étapes avant de pouvoir commercialiser ce patch, les résultats des premiers tests sont extrêmement encourageants. Il serait tout aussi efficace pour examiner le cœur qu'un échographe classique, avec en plus des capacités d'enregistrement d'images en continu. Donc effectivement, c'est une espèce de petit patch qui peut révolutionner les échographies cardiaques, parce que du coup, on aurait à la fois la possibilité de continuer nos activités au lieu d'être allongé pendant une heure, et ça permettrait d'avoir aussi des informations sur la durée. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi d'avoir une information sur l'activité cardiaque pendant que le patient est en train de faire une activité normale. Et du coup, on a une meilleure information dans un contexte un peu plus réel. Donc voilà, ça c'est une petite information qui est totalement réjouissante. Autre information, qui n'est pas nécessairement une information réjouissante, mais qui nous donne des informations sur ce qui se passait à l'époque de Jules César. En 52 avant Jésus-Christ, l'empereur Jules César développait dans son ouvrage La guerre des Gaules, un système de puits et de fossés pour défendre une zone attaquée par les Gaulois. L'idée, c'était que l'adversaire qui attaquait la nuit se retrouvait empalé sur place. Et bien plus de 2000 ans après, il y a des archéologues qui viennent de trouver les tout premiers restes d'un système similaire près d'une ancienne mine d'argent, là où se trouvait auparavant la frontière nord de l'Empire romain. Plus exactement, ils ont déterré des pointes en bois qui étaient enfouies dans des collines près de la ville de Bad Ems, c'est en Allemagne. Deux siècles auparavant, donc au niveau du 19e siècle, il y a des restes de minerais et des scories métalliques qui ont suggéré un travail ancien de de l'argent. Ça, c'est au XIXe siècle. Et ensuite, plus récemment, en 2016, il y a un premier fort qui a été découvert à proximité, ce qui suggérait déjà que la mine était défendue. C'est une hypothèse étayée par des vestiges de tours de guet en bois qui avaient été retrouvés, et notamment aussi un système de double fossé. Et pour corroborer cette hypothèse, d'anciens écrits évoquent un gouverneur romain nommé Curtius Rufus qui avait tenté d'extraire ce minerai, nous sommes en l'an 47, et ça confirmait donc l'idée d'une protection militaire, une tentative d'extraction qui est malheureusement vaine parce que ce n'est que des siècles plus tard que l'argent du site a pu être réellement excavé en creusant suffisamment profondément. Et aujourd'hui, à 2 km du premier fort qui avait été découvert, le nouveau s'accompagne de pieux tels que ce qui avait été décrit dans la guerre des Gaules. Il y avait aussi une pièce de monnaie de l'an 43 qui confirmait bien l'époque dont il date. Et pour cette raison, les chercheurs ont pu établir que les fortifications identifiées datent d'avant des murs qui étaient établis à partir de l'an 110 qui servaient de frontière dans l'Empire romain. C'est quand même totalement fascinant. Et selon les chercheurs, la bonne conservation de ces piliers en bois tient au sol humide, tout comme pour les anciennes tours de guet. Des questions qui restent cependant en suspens, notamment le fait que le premier fort semble n'avoir jamais été terminé. De plus, il y a des traces qui indiquent que les deux forts ont été détruits quelques années après leur construction sans que les historiens ne sachent pourquoi. Mais en tout cas, voilà un redoutable système de défense qui avait été inventé par Jules César, qui a été découvert pour la première fois au XXIe siècle, 2000 ans après. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est fascinant. Allez, on écoute un autre titre sur l'antenne de Graphite. Please make me better. Papa Power, c'était Cat Power sur l'antenne de Graphite. La protection immunitaire offerte par un vaccin dépend largement d'une réponse individuelle à celui-ci. Et pour visualiser cette protection, les scientifiques utilisent la réponse des anticorps comme biomarqueur dans l'organisme. Or, il y a des récentes études qui ont montré une grande variabilité de la réponse des anticorps à même vaccin contre la Covid-19 chez des adultes en bonne santé n'ayant jamais été infectés par le virus. Certains facteurs de risque semblent jouer un rôle dans cette variabilité, comme le sexe, l'âge, les antécédents de tabagisme, l'hypertension. Et donc, de manière générale, les hommes sont moins protégés que les femmes et les personnes qui souffrent d'obésité sont moins protégées que celles qui n'en souffrent pas. Aucun de ces facteurs de risque ne peut toutefois être ciblé par des interventions comportementales rapides visant à optimiser la réponse humorale. C'est ce qu'écrivent les chercheurs d'une nouvelle étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans la revue Current Biology. Alors, au contraire, le sommeil apparaît comme un facteur contrôlable. D'après donc les chercheurs, augmenter sa durée de sommeil au moment de la vaccination pourrait renforcer la réponse des anticorps. Et afin de résumer les preuves liant la quantité de sommeil total des jours précédant la vaccination à la réponse des anticorps chez les adultes en bonne santé, eh bien les chercheurs ont réalisé ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'ils ont parcouru les études qui existent sur ce sujet, ils ont combiné, réanalysé les résultats d'études qui portent sur la vaccination contre les infections virales, et ils ont trouvé plusieurs associations marquantes. Par rapport à une durée de sommeil considérée comme normale de 7 à 9 heures, un temps de sommeil inférieur à 6 heures par nuit autour de la vaccination réduit la réponse des anticorps. Cette réduction serait similaire à la diminution des anticorps du vaccin contre la Covid-19 sur une période de 2 mois. De plus, chaque heure de sommeil compte, apportant une efficacité dans la production d'anticorps. Alors, il convient de noter que les chercheurs ont trouvé des différences de résultats entre les personnes de sexe et d'âge différents. Les personnes âgées de plus de 65 ans étaient moins impactées par le manque de sommeil sur la production des anticorps que celles qui étaient plus jeunes. Par ailleurs, le résultat général trouvé n'était significatif que chez les hommes, beaucoup plus variable chez les femmes. Nous savons, grâce aux études immunologiques, que les hormones sexuelles ont une influence sur le système immunitaire. C'est ce que déclare Karine Spiegel de l'Institut National Français de la Santé et de la Médecine, l'INSERM. Chez les femmes, l'immunité est influencée par l'état du cycle menstruel, l'utilisation de contraceptifs, la ménopause, le statut post-ménopausique. Mais malheureusement, aucune des études que nous avons résumées ne contenait de données sur les niveaux d'hormones sexuelles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les auteurs affirment qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur la durée de sommeil et la vaccination. Des études à plus grande échelle sont donc nécessaires pour essayer d'établir la fenêtre de temps autour de la vaccination où justement l'optimisation de la durée de sommeil est la plus bénéfique. Les causes de la disparité entre les sexes dans l'impact du sommeil sur la réponse ainsi que la quantité de sommeil nécessaire pour protéger la réponse immunitaire seront également à affiner. Mais en tout cas, voilà, le manque de sommeil pourrait diminuer l'efficacité des vaccins. C'est une première analyse de cette étude. C'est assez, voilà, je laisse comme ça le sujet sur la table. Allez, on écoute un rapide titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite.
Show me the look that I gave.
Book, c'était Gustave sur l'antenne de Graphite et on se quitte avec Gustave pour cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, eh bien vous restez fidèles bien sûr à l'ensemble des émissions de Graphite. Vous avez même la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts. Mon Dieu, quelle chance vous avez. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end de Pâques. À bientôt, merci, au revoir.